Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus pour l'émission Univox, réalisée cette semaine à Rennes. Nous vous proposons pour cette fois de tenter de décrypter ce qui se cache sous le terme de traité transatlantique, aussi appelé TAFTA. Pourquoi les négociations se passent-elles dans un tel climat de secret? Qu'est-ce que cet accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne pourrait changer au niveau économique? Quels sont les risques sociaux et écologiques? Autant de questions que nous aborderons avec Renaud Lambert, rédacteur en chef adjoint au Monde diplomatique, et avec deux membres du collectif Stop TAFTA. Nous donnons tout d'abord la parole à Renaud Lambert qui nous présente les objectifs de ce traité transatlantique.
Univox.
Peut-être qu'il faut préciser que lorsqu'on parle du traité transatlantique, on parle aussi de ce qu'on a appelé par ailleurs le TAFTA, ce qui est un acronyme anglais qui a été promu par des organisations militantes d'abord anglo-saxonnes, puis repris par certaines en France. C'est aussi ce qu'on appelle le grand marché transatlantique, c'est ce qu'on appelle officiellement TTIP en anglais et en français partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Il y a tout un tas de noms pour la même chose. Et le fait qu'il y ait tout un tas de noms montre qu'il n'y a pas eu de publication officielle pour nous présenter ce dont il s'agissait. Si on avait eu une, eh bien on aurait adopté le nom présenté par les autorités qui souhaitaient nous informer de ce qu'elles concoctaient pour nous. Ça n'a pas été le cas. Et les informations dont on dispose ont d'abord fait l'objet de fuites. Et ensuite, les organisations se sont emparées du sujet et ont cherché à promouvoir d'où la multiplicité des appellations pour cette même chose. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une proposition de traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Alors, c'est un traité de libre-échange qui vise principalement à trois choses. La première, c'est réduire les barrières tarifaires, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit plus facile pour les entreprises de commercer entre les deux régions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'agriculture française? Ça veut dire qu'on verrait arriver tout un tas de produits subventionnés aux États-Unis et que donc l'agriculture française, celle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, souffrirait énormément, que l'on verrait probablement arriver des produits OGM sur les marchés européens. Mais ce n'est pas l'objectif principal de ce qu'on appelle, nous, au monde diplomatique, le grand marché transatlantique, le GMT. Le deuxième objectif, qui est plus important, vise à ce qu'on appelle en langage officiel harmoniser les règles. Et alors évidemment, lorsqu'on nous explique ce dont il s'agit, on nous dit que l'objectif est de faire en sorte que les normes sanitaires, environnementales, sociales soient les moins contraignantes possibles de façon à assurer la prospérité et le bonheur de tout le monde. Et on nous dit bien sûr qu'il n'y aura pas de nivellement vers le bas. Alors, lorsque l'on tourne un petit peu le regard vers le passé et que l'on observe d'autres tentatives d'harmoniser les règles, là je place des guillemets qu'on n'entend pas à la radio, mais c'est pour reprendre l'expression officielle, on s'aperçoit qu'en fait il s'agit de détricoter ce qui constitue des formes de protection des consommateurs et des citoyens et des ouvriers, et des travailleurs de manière générale. L'intérêt, il existe des deux côtés de l'Atlantique. Je prendrai deux exemples. À la suite de la crise qui s'est déclenchée en 2008, les États-Unis ont fait davantage que l'Union européenne pour réglementer le secteur de la finance. Bruxelles a été très très timide, en partie parce que le lobby financier est extrêmement puissant à Bruxelles. Or aujourd'hui, à Wall Street, on est très intéressé par une harmonisation des règles dans le domaine de la finance qui permettrait aux entreprises de Wall Street de bénéficier d'un cadre de régulation beaucoup plus souple qui leur permettrait de reprendre toutes les activités qui nous avaient conduit à la crise. De notre côté de l'Atlantique, vous avez des entreprises qui, elles, voient d'un œil assez doux la faiblesse de la réglementation du travail aux États-Unis et qui aimeraient bien pouvoir appliquer exactement les mêmes règles à leurs salariés français. Détricoter ce qui constitue encore des outils de lutte au quotidien dans les entreprises, que ce soit l'organisation des syndicats, les conventions collectives, les minima sociaux. Donc ça, c'est le deuxième objectif, détricoter tout ce qui encadre notre vie de tous les jours et qui concerne à la fois les consommateurs, les citoyens et les salariés. Le troisième objectif, il vise à instaurer ce qu'on appelle des tribunaux d'arbitrage et qui permettent d'inscrire dans le marbre de la loi la supériorité du droit des entreprises à dégager des profits sur le devoir des États à assurer le bien-être de leur population. En substance, il s'agit d'organisations, de tribunaux privés que seules les entreprises ont le droit de saisir pour se plaindre d'États qui prendraient des mesures contrevenant au profit des entreprises. De nombreux exemples existent déjà pour des pays qui ont mis en place ce type de tribunaux d'arbitrage. En Amérique latine, au Mexique, en Australie. En Australie, si je ne me trompe pas, le cas, c'est celui d'une mesure du gouvernement visant à alerter davantage les consommateurs de tabac, des dangers du tabac. Eh bien, la société Philip Morris, je cite son nom de mémoire, mais je crois que c'est elle, a exigé une compensation financière pour les profits qu'elle n'allait pas les réaliser dès lors que des gens se rendaient compte que qui fume a tendance à plus de chances de contracter un cancer. On voit bien ce à quoi pourrait conduire un tel dispositif. En fait, il lierait les mains des gouvernants parvenant au pouvoir et en fait contraindrait la démocratie à un cadre qui ne pourrait jamais contrevenir aux intérêts des entreprises. Et donc vous pouvez totalement imaginer un système qui soit démocratique dans le sens où des gens sont élus, mais qui ne le soit plus du tout dans la mesure où, une fois au pouvoir, ils n'ont plus la possibilité de prendre des mesures telles que des nationalisations, des mesures de protection des citoyens, dès lors que les intérêts des entreprises sont mis en danger. Donc ça, ce sont les trois menaces, les trois objectifs et à mon avis, trois menaces que constitue le grand marché transatlantique.
Comment ça se fait qu'au niveau du Parlement européen, il n'y ait pas plus de contestation, en fait, qu'on n'entende pas plus des élus porter une voix contre ça, parce qu'on voit que finalement, il n'y a aucun intérêt au niveau social, c'est vraiment un intérêt libéral pour les entreprises. Et en plus, il me semble qu'il y a une certaine opacité au niveau de ce qui a été fourni aux personnes qui travaillent au Parlement européen sur ce traité, donc ils ont eu des résumés. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de voix qui s'élèvent au niveau gouvernemental ?
Je commence par la question de l'opacité. Il est vrai que les négociations sont entourées d'une grande opacité et que certains membres du Parlement européen se sont plaints de dispositifs qui faisaient que les documents de travail ne sont accessibles qu'à certains représentants de la Commission sur le commerce international et que ces représentants ne peuvent avoir accès aux documents que dans des pièces dans lesquelles on ne peut pas faire entrer de papier, de stylo, de téléphone, d'appareil photo. Donc c'est vraiment un cadre de protection maximum. Donc évidemment, un grand secret, et on a toutes les raisons de se méfier d'un tel secret. Si c'était effectivement des mesures qui allaient assurer notre bonheur total, eh bien, pourquoi ne pas en faire la publicité ? Alors on nous explique que c'est pour protéger nos intérêts dans le cadre d'une partie de poker qui se joue avec les États-Unis. Il est possible de lire les choses un petit peu différemment et de se dire que si on ne nous montre pas ces documents, c'est qu'on aurait peut-être de bonnes chances de s'en inquiéter. Mais je crois qu'il ne faut pas totalement croire le discours des parlementaires européens qui nous expliquent que si seulement ils avaient su, ils auraient pu se battre. Je rappelle que le mandat qui a été donné à la Commission européenne, qui est l'organisme négociateur pour l'Union européenne, lui a été remis par le Conseil des États européens, donc représentant des différents États, des chefs d'État, des ministres de l'économie, et lui a été remis également à la suite d'un vote du Parlement où l'ensemble des grandes forces, c'est-à-dire social-démocrate et chrétienne-démocrate de droite, ont voté en faveur de la négociation du grand marché transatlantique. Il n'y a donc pas, d'un côté, des gentils parlementaires européens qui seraient opposés à ce nouveau traité de libre-échange et de l'autre côté, des négociateurs qui feraient tout dans leur dos. Il y a des institutions bruxelloises qui sont, dans leur ensemble, extrêmement favorables à un nouvel accord de libre-échange. Pourquoi le sont-elles ? Les raisons sont multiples. Il y a d'abord le microcosme bruxellois dont il ne faut pas sous-estimer l'imprégnation idéologique des thèses libérales. Il y a le poids des lobbies à Bruxelles. Il faut savoir qu'il y a des milliers de lobbyistes qui passent leur temps à tenter d'influencer les votes de parlementaires qui parfois ont un attachement à leur travail assez limité. Et puis, il y a aussi le profil des commissaires européens. Que voit-on avec la nouvelle commission ? On s'aperçoit qu'à l'économie vient d'être nommé Pierre Moscovici, qui est l'ancien un des dirigeants du Cercle de l'Industrie, un lobby patronal basé à Paris. A été nommé au poste de commissaire des finances un ancien lobbyiste du secteur de la City à Londres. A été nommé au poste de commissaire de l'énergie un ancien dirigeant d'une société pétrolière en Espagne. Et on s'aperçoit en fait que les intérêts privés, les intérêts des entreprises, sont désormais totalement, se trouvent désormais au cœur des institutions bruxelloises. Dans un tel contexte, il me semble qu'on ne peut pas être totalement surpris de leur décision de négocier un accord de libre-échange tel que celui que j'ai décrit au préalable.
Ça, c'est un traité qui concerne les États-Unis et l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas aussi une volonté d'affaiblir d'autres puissances, notamment, je pense, à la Chine ou à la Russie ?
Oui, indéniablement. Le grand marché transatlantique fait partie d'une stratégie américaine qui vise à contourner, à contrevenir à l'émergence de cette puissance chinoise. En parallèle, les États-Unis négocient un accord transpacifique avec des pays qui se trouvent dans la zone pacifique. Et en effet, l'idée est de garder la capacité d'imposer ces normes au reste du monde. Mais il faut savoir que le Brésil et la Chine ont souhaité faire partie d'autres accords actuellement négociés qui ne rassemblent pas uniquement les États-Unis et l'Union européenne. Et on les en a exclus, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'opposition de principe ni idéologique à une réduction des normes sociales, environnementales de la part de pays tels que le Brésil ou un pays encore plus puissant, la Chine, mais qu'il y a une opposition de nature géopolitique qui fait que les États-Unis souhaitent les tenir à l'écart.
Univox.
Baisse des acquis sociaux, disparition de la notion de service public, possibilité pour les entreprises d'attaquer les États via des tribunaux privés, les ambitions du traité transatlantique font froid dans le dos. Les étapes jusqu'à sa ratification sont néanmoins encore longues et, selon Renaud Lambert du Monde Diplomatique, il est encore temps de faire bouger les choses.
Il est possible non seulement de résister, mais de remporter la bataille. Et je pense que nos adversaires dans ce domaine-là disposent d'assez peu d'atouts. Le premier de leurs atouts, c'était le secret. Or, celui-ci est de plus en plus levé. Le voile du secret n'est plus un obstacle à notre connaissance de ce qu'ils sont en train de tramer. Ça, c'est une première chose. On a appelé lors des mobilisations contre l'accord multilatéral sur l'investissement en 1998, ce phénomène, le phénomène Dracula, qui fait que ces négociations secrètes supportent assez mal la lumière du jour, comme les vampires. Il suffit de les présenter, de les faire connaître au grand public pour que... la menace disparaisse parce que finalement, on ne peut pas défendre de tels projets devant la population. Mais il y a des moyens de résister. Tout d'abord, ce projet doit être ratifié au niveau du Conseil des membres de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il est possible pour nous de peser sur notre gouvernement. Il doit être ratifié au niveau du Parlement européen, ce qui veut dire qu'il est possible pour nous de peser sur ses représentants. Il est possible, ce texte doit être également ratifié par le Parlement français, par l'Assemblée nationale, parce qu'il modifie substantiellement le fonctionnement de l'État. Et donc, ça veut dire qu'il est possible pour nous de protester auprès de nos représentants parmi les plus proches, les députés. Alors évidemment, une objection s'impose, qui est quel espoir avoir d'une protestation auprès de dirigeants politiques qui, en France, le Parti socialiste, et à l'époque, puisque des militants, des représentants d'Europe Écologie Les Verts faisait partie du gouvernement, d'un gouvernement qui a donné mandat à la Commission pour négocier, pourquoi attendre de ces forces politiques qu'elles reviennent en arrière et qu'elles ne ratifient pas un texte ? Eh bien parce que parfois la rue pèse et parfois les mobilisations politiques ont un impact. Et donc, à mon avis, il est important de prendre conscience de notre capacité à peser sur les choses et sur le fait que la non-ratification par la France ferait capoter l'ensemble du projet. Donc nous avons une capacité de résistance immense. Reste pour nous à organiser les manifestations publiques, les rassemblements, la diffusion de la connaissance, augmenter le nombre des convaincus qui, à leur tour, peuvent convaincre leur entourage de la nocivité du grand marché transatlantique.
Bruxelles avait lancé une consultation publique sur Internet pour justement donner la parole, enfin donner une voix à la population et aux personnes qui s'inquiétaient contre ce traité jugé trop opaque. Et il y a eu beaucoup de contestations autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un avis sur cette consultation ?
Oui, d'abord, c'est l'indication que les mobilisations comptent. Cette consultation a été concédée lors de la campagne pour les élections européennes au printemps dernier, un moment où des articles de presse, la mobilisation des réseaux tels que les collectifs Stop TAFTA ont commencé à peser. Même des dirigeants du Parti Socialiste, qui ont pourtant fait la démonstration de leurs convictions libérales, ont manifesté une réserve, des inquiétudes quant à l'impact du GMT. Et c'est en partie pour répondre à ces inquiétudes que Bruxelles a concédé une consultation publique. C'est assez rare et c'est donc une réussite. Il faut préciser que cette consultation n'était pas sur l'opportunité de négocier un GMT, un grand marché transatlantique, mais sur certains aspects uniquement. Et que pour pouvoir répondre, il fallait s'engager à lire tout un tas de documents qui défendaient le projet. Plus de 100 000 personnes ont répondu à cette consultation, c'est assez rare. Et une grande majorité d'entre eux s'est déclarée extrêmement préoccupée par le GMT. Mais si vous voulez, la démocratie bruxelloise a ça de merveilleux que l'on peut à la fois consulter les gens et s'asseoir totalement sur leur point de vue et poursuivre les négociations. Et c'est ce qui se passe. Si on imagine un instant que le grand marché transatlantique est entré en vigueur, qu'il a été signé, qu'on se retrouve d'ici 5 ans dans la même situation, qu'on se réveille un matin. Bon, il y a de fortes chances qu'on d'abord on ait froid, parce que l'énergie aura été le secteur de l'énergie aura été totalement libéralisé. Et en général, lorsque ça se produit, le coût de l'énergie augmente et en flèche. On aurait sûrement froid parce que même lorsque le coût de l'énergie aura augmenté, notre rémunération aura sûrement baissé. Parce que l'un des objectifs du grand marché transatlantique, c'est d'organiser une concurrence entre nous et d'autres salariés, tout en diminuant notre capacité de négociation, les conventions collectives, ce qui fait que les salaires font l'objet de négociations encore encadrées. Lorsqu'on dépose ses enfants à l'école, eh bien, il y a de fortes chances pour que l'école soit devenue privée, puisque la notion même de service public est totalement remise en cause par cet accord et les autres accords qui sont actuellement en négociation, qui sont parfois plus menaçants encore. Dans notre entourage, sur le chemin qui nous sépare de l'école de nos enfants, lorsqu'on va les déposer, il y a de fortes chances pour que le niveau de pollution ait énormément augmenté. Pourquoi ? Parce que les normes environnementales constituent une entrave au bon fonctionnement des entreprises, au bon fonctionnement du marché. Et donc ces normes ont sûrement été au moins adoucies, pour ne pas dire totalement balayées. On pourrait multiplier les exemples. Et peut-être un effort que chacun peut faire, c'est de contacter son entourage et de voir en fonction de ses préoccupations. Si vous avez affaire à un militant écologiste, eh bien, le GMT constitue une menace importante pour lui. Si vous avez affaire à un syndicaliste, le GMT constitue une menace extrêmement importante pour lui. Et peu importe la couleur politique, vos préoccupations, le GMT constitue une préoccupation importante pour vous. Vous pouvez rejoindre des organisations, des collectifs, comme le collectif qui se lance, le collectif Stop TAFTA, pour participer à l'organisation collective de manifestations. Parce que je pense que les batailles politiques ne se mènent pas chacun dans son coin, même si le travail que l'on fait chacun dans son coin est important. À un moment, il faut se retrouver. Et je dirais, quitte à sembler prêcher pro domo pour ma chapelle, que la lutte contre ce type de projet implique la prise de conscience que les combats politiques débutent, ou en tout cas doivent intégrer le combat pour les médias. Pourquoi a-t-on découvert que le GMT existait ? Pourquoi a-t-on pu faire capoter le projet d'accord multilatéral sur l'investissement en 1998 ? Eh bien parce que des médias ont diffusé une information à ce sujet. Les médias ont la capacité de mener des enquêtes, de souligner les menaces que constituent des projets comme cela, quand on les laisse faire leur travail. Or, aujourd'hui, quels sont les médias qui peuvent faire leur travail ? Eh bien, uniquement ceux qui sont libérés de la mainmise de l'argent, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Il n'en reste plus qu'une poignée, et il me semble qu'il faut les défendre.
Le collectif Stop TAFTA s'est créé en réaction à cet accord de libre-échange afin de créer un moyen de pression sur le gouvernement. Renaud Lambert en parlait à l'instant quand il évoquait les outils citoyens qui sont à notre portée pour interpeller nos élus. On donnera la parole à ce collectif juste après une courte pause musicale. Tout de suite, on écoute Smooth Venturel, Will You Be Mine.
Your best fixing, yeah. Never giving up till you got nothing left. Up in smoke, it don't matter. Watch your flames burn, they're beautiful instead. Such a joke, but who's laughing when you lost everything you ever seen ahead? And keep on shining till you realize that feeling.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Nino Tocco et Pascal Trochet, respectivement du parti de gauche et de l'association Attaque, sont membres de la section locale du collectif Stop TAFTA, qui a pour vocation d'interpeller citoyens et élus sur les dangers du traité transatlantique. Il nous parle des actions mises en place et aussi à venir.
Alors le collectif TAFTA, c'est l'idée, c'est un peu le phénomène américain. C'est-à-dire on a un sujet sur lequel on a envie d'agir, d'être efficace, et on essaye de réunir sur ce sujet l'ensemble des associations, partis politiques, syndicats, mouvements associatifs, mouvements environnementaux, pour se donner plus de force dans l'action. Depuis 2 ans, l'ensemble, beaucoup de gens, effectivement, essayent d'informer les Français de ce qui se passe. En plus, chez les députés, il y a eu un député du PC, il y a un député des Verts, notamment par l'Européen, qui ont sorti, effectivement, des livres. Il y a des associations environnementales qui ont fait un travail de leur côté, la Confédération Paysanne qui a fait l'autre. Et on s'est, et ça depuis 2 ans. Et puis on s'est dit, ben voilà, on va essayer de s'unir pour être efficace. Donc il y a un collectif national qui s'est créé, et un peu partout en France, ben, à cette image-là, des collectifs locaux se créent et décident de travailler ensemble sur un objectif commun, qui est informer la population de la réalité du contenu de ces traités.
Ce sont des collectifs organisationnels pour l'instant, c'est-à-dire que ce sont des collectifs qui regroupent des associations et non des individuels, c'est bien ça?
Il y a des cas de figure différents. À Rennes, pour l'instant, c'est un collectif où siègent des représentants d'associations et partis politiques. Il y a d'autres cas où, souvent, ce collectif s'est transformé en association. C'est-à-dire, ils ont dit, après tout, on va avoir des gens qui ont envie de s'investir dans cette action-là, mais qui ne sont pas obligatoirement adhérents d'un parti ou syndicat. Il faut pouvoir s'accueillir, il faut pouvoir se coordonner, se structurer. Donc c'est assez souple, en fin de compte, comme fonctionnement.
Alors, ma question suivante, c'était de savoir s'il y avait déjà eu, par le passé, des exemples d'actions citoyennes qui avaient pu faire reculer ce type de traité.
Oui, alors exactement, on a deux... Dans l'histoire, c'est vrai que pour les plus jeunes, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, il y a eu... Dans les années 80, un traité qu'on a appelé la GCS, qui était l'accord global sur le service. Un peu plus en amont, on a eu l'AMI, l'accord sur multilatéral sur les investissements. Et toutes ces deux négociations, alors pour des raisons qui ne sont pas obligatoirement les mêmes, mais l'AMI, il est clair que le fait d'avoir réussi à briser ce plafond de verre qui faisait que le contenu du traité n'était pas publié et que les citoyens n'étaient pas informés sur la réalité des négociations en cours, à partir du moment où on a réussi à informer massivement la population et interpeller beaucoup d'interpellations vis-à-vis des élus, là, ben, globalement, la France a décidé de se retirer. Et dans ces négociations, lorsqu'un des pays qui a décidé de s'engager décide de se retirer, la négociation déraille. C'est pour ça que l'objectif des collectifs Stop TAFTA, c'est faire dérailler les négociations. Et nous, ce qu'on pense, c'est que plus l'information passera, plus les débats s'engageront, plus la réalité du contenu feront que les politiques et les élus ne pourront plus être dans une situation de nous dire non, rien n'est grave, tout ce qui se passe, c'est pas inquiétant.
Justement, avant la ratification du traité transatlantique, il y a différentes étapes. Ça doit passer par le Parlement européen, mais aussi par les parlements des différents États concernés. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire et qu'est-ce que le collectif également peut faire pour interpeller notre gouvernement, nos élus, si on souhaite s'opposer. Je vais peut-être poser la question du coup à Nino Tocco.
Oui, alors déjà sur la ratification elle-même, il y a plusieurs pièges. Il y a d'abord le premier piège qu'effectivement, logiquement, ça devrait passer d'abord par le Parlement européen. En sachant une chose, c'est que le texte qui sera présenté au Parlement européen sera voté sans droit d'amendement. Ce qui veut dire que ce sera du oui ou non, c'est tout. En plus, si c'est non, il ne faut pas oublier que la décision sera prise par le Conseil. Ce qui veut dire que si le Parlement européen décide le veto, le texte pourra très bien passer parce que le Conseil l'aura décidé. Ensuite, il y aura effectivement ratification au sein de chacun des États selon les procédures utilisées par chacun des États. Ça pourrait être un référendum d'un côté ou chez nous sans doute par le Parlement. Alors sur la ratification, il y a aussi un autre petit détail qu'il faut voir, c'est de savoir sur quel texte on va voter. Et apparemment, pour l'instant, on s'engage à faire voter, semble-t-il, les parlements sur un texte qui sera plus ou moins édulcoré, question de faire passer la pilule. Surtout en ce qui concerne la déréglementation, qui officiellement n'aura pas lieu. Et le piège qu'on va avoir avec cet accord, surtout s'il est ratifié, c'est que ce ne sera pas un traité comme on le voit habituellement, signé, on fait, mais ce sera ce qu'on appelle un traité vivant. Un traité vivant qui se permettra d'évoluer, parce que pour passer au-dessus des peuples et permettre la déréglementation, il y aura création d'un nouvel organe qui fera vivre ce traité et qui permettra des égalisations, des harmonisations des normes entre les différents composants, donc les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre, et qui se contentera surtout de faire de la déréglementation pour favoriser les investissements et les bénéfices des grandes entreprises transnationales.
Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire pour agir, pour interpeller ? Est-ce que vous avez des exemples d'actions qu'on peut mener ?
Alors, ce que peuvent faire les gens, déjà la première chose, c'est ce qu'on appelle se mobiliser. Alors, se mobiliser, ben, c'est entre autres participer à des manifestations qui ont lieu quelquefois, dont une d'ailleurs qui aura lieu le 19 décembre à Bruxelles. Donc, prenez note. Tout le monde à Bruxelles le 19 décembre, les frites sont bonnes. Et donc ça, c'est la mobilisation elle-même, c'est-à-dire on va marcher, on fait nos kilomètres, on est content, on crie. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, pour aider la mobilisation, il y a le rôle que justement doivent se fixer les collectifs comme les nôtres, c'est des rôles d'éducation, c'est un peu dur de le dire, disons d'information des citoyens. Et ce rôle-là, c'est justement la mécanique qu'on va commencer à penser au sein de notre collectif, comme l'ont fait d'autres collectifs, comme par exemple, pour le citer, le collectif de Saint-Malo, qui organise assez régulièrement ce qu'on appelle des cafés citoyens, qui ne sont en sorte que des petites réunions publiques, mais qui amènent de l'information. Parce que le principal, il est là, il faut informer, 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 et sans arrêt informer.
Et justement, la semaine dernière, il y a eu une réunion publique à la salle de la Cité à Rennes. Est-ce que vous avez eu des retours ? Il y avait beaucoup de monde qui y était, il me semble.
Alors, pour nous, c'est un succès. C'est-à-dire que la situation sociale, politique, générale n'est quand même pas verdoyante. Réunir 350 personnes à la salle de la Cité, alors je sais qu'on m'a traité de petit bras parce que moi j'avais demandé que 200 chaises, donc on s'y attendait pas, ça a été vraiment un grand succès, la salle de la Cité était pleine, en plus succès aussi dans la mesure où l'ensemble des forces politiques, syndicales et associatives étaient représentées, ça donnait vraiment la pêche à tout le monde. D'autant que, ce qu'on se rend bien compte, on est quand même heureux d'être sur votre radio, parce que les gros médias nationaux, c'est un blackout total. Ouest France n'a pas couvert l'événement. Ils couvrent une petite réunion de 10 personnes, mais 350 personnes, non, ça couvre pas. On a un vrai problème. On sent aujourd'hui que faire intervenir, obliger les partis politiques et les médias nationaux à parler du TAFTA, c'est depuis 2 ans un enjeu central. Bon. Et nous, notre espoir, justement, c'est qu'avec cette réunion publique de 350, c'est que les politiques et les gros, et effectivement, là, ne peuvent plus l'ignorer, effectivement, la réussite de cet événement. Alors, c'est vrai que, à Rennes, bon, nous, à TAC, on a déjà fait plusieurs conférences, le PGA avait fait la sienne, le PC avait fait la sienne, mais effectivement, ça ne rentrait pas comme un débat public citoyen qui s'organise et un mouvement d'opinion qui commence à se créer. Donc voilà, nous on est satisfaits, bon, et voilà, et puis ça va compter, je pense que ça va continuer. Donc en termes d'action, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de voter dans les municipalités, dans les collectivités territoriales, c'est ce qu'on appelle des vœux hors TAFTA. C'est-à-dire, on essaye de faire voter par, en fait, des représentants du peuple, effectivement, de toute une série de motions dans lesquelles on leur dit, attendez, nous on veut être vigilants au contenu, il y a ça qu'on veut pas, il y a ça qu'on veut pas, il y a ça qu'on veut pas. Après, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est des campagnes d'interpellation au niveau des députés et des sénateurs. Bon, là, on a déjà fait, on nous a répondu. Pour la petite blague, au niveau des députés du Parti Socialiste, quand Attac, il y a 2 ans, leur a écrit les premières lettres, on sentait que c'était travaillé. Bon. Mais après, au bout de la deuxième vague, on a bien vu qu'il y a une lettre type qui est tombée, là, visiblement, du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'était une lettre, on recevait tous la même chose. Mais après, il y a la réalité de l'ensemble des élus, des conseillers municipaux, des conseillers généraux. Et je crois qu'on va, ni plus ni moins, inviter les gens des collectifs à demander à être reçus, aller les voir, parce que même on se rend compte qu'une bonne partie des députés ne connaissent pas la réalité des traités de ce qui se négocie actuellement.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Voilà, j'espère que vous êtes désormais incollable sur cette épineuse question du traité transatlantique. Néanmoins, si vous souhaitez des informations complémentaires au sujet du TAFTA, je vous invite à consulter le dossier que le Monde diplomatique a consacré à ce sujet cet été et qui se trouve en libre accès sur leur site internet. Je vous invite également à faire un tour sur stop-tafta.org. Vous y trouverez de nombreux textes et contacts vers les différents collectifs locaux. Univox, c'est fini pour cette semaine, mais bien sûr réécoutable et podcastable sur le site de Radio Campus. Avant de vous quitter, je remercie nos différents intervenants ainsi que Thomas à la réalisation et je vous souhaite une bonne écoute de la suite de vos programmes.